Onction et sceaux. Nous en venons maintenant à l'onction et au sceau du Saint-Esprit. En Luc 4, verset 18, nous lisons
« L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres.
» Et en Jean 6, verset 27,
« C'est lui que le Père Dieu a scellé. »
En Acte 4, verset 27,
que tu as oint.
Et au chapitre 10, verset 38,
comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance.
En Jean 3, verset 34,
car celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l'Esprit par mesure.
Tous ces passages parlent du Seigneur Jésus, lui qui a été conçu de l'Esprit Saint, Matthieu 1, verset 20, était aussi oint et scellé de l'Esprit.
Matthieu 1, verset 20, mais comme il méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint. »
Et comme Dieu lui avait donné la plénitude de l'Esprit, il pouvait parler les paroles de Dieu. Avant acte 2. Nous ne lisons d'aucune autre personne qu'elle ait été scellée du Saint-Esprit. Christ, c'est-à-dire loin, seul l'était. Personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit avant que l'œuvre du salut ait été accomplie. Cela est aussi en accord avec les types de l'Ancien Testament. En Exode chapitre 29 et Lévitique chapitre 8, où nous trouvons la consécration des sacrificateurs, Aaron et Ouin avant la présentation du sacrifice. Les fils d'Aaron l'étaient après le sacrifice, et il était alors fait aspersion sur eux du sang et de l'huile de l'onction. Selon l'Épître aux Hébreux, Aaron est un type du Seigneur Jésus, et les fils d'Aaron de nous comme famille sacerdotale. Voir Hébreux 2, versets 11 à 13.
Car « et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, disant « j'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée je chanterai tes louanges. Et encore, moi je me confierai en lui, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. »
Hébreux 3, verset 1 et verset 6.
C'est pourquoi, frères saints, participants à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus. Mais Christ, comme fils, sur sa maison, et nous sommes sa maison, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance.
1 Pierre 2, versets 4 et 5.
Duquel, vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Dans les Épîtres, nous trouvons trois passages qui parlent de notre onction.
Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés et nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs. 2 Corinthiens 1, verset 21. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toute chose, et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. 1 Jean 2, versets 20 et 27.
Ces passages nous montrent la signification de l'onction. Par elle nous savons toutes choses, car elle nous enseigne sur toutes choses. En 1 Corinthiens chapitre 2, cela est développé par l'apôtre Paul. L'Esprit de Dieu sait ce qui est en Dieu, et nous avons reçu
l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu, versets 10 à 12.
L'onction du Saint-Esprit consiste donc dans le fait que nous sommes unis, par l'habitation du Saint-Esprit, dans une communion immédiate avec Dieu. Ainsi, nous connaissons ses pensées et savons également ce qui y est contraire, et nous pouvons nous fortifier et nous réjouir dans la vérité de Dieu en Christ. Dans le type de la consécration des sacrificateurs en Lévitique chapitre 8 et 9, cela nous est montré clairement. Après la consécration, dans la première partie du chapitre 8, nous trouvons, dans les derniers versets du chapitre 8 et au chapitre 9, les devoirs des sacrificateurs. Au chapitre 8, c'est de garder ce que l'Éternel vous a donné à garder, et au chapitre 9, en vue de la gloire à venir et de la bénédiction du peuple, c'est d'apporter le sang là où le souverain sacrificateur doit l'employer. Par leur onction comme sacrificateurs, ils ont communion avec Dieu dans sa maison, ils connaissent les ordonnances du Seigneur, ont l'intelligence de l'œuvre de la rédemption et savent où le souverain sacrificateur fait application du sang. Ils savent aussi que cette œuvre amènera la gloire et la bénédiction finale pour le peuple. Naturellement, cela ne veut pas dire que chacun de ceux en qui le Saint-Esprit habite connaisse toute la vérité dans ses détails et n'ait besoin d'aucun enseignement. Dans les chapitres suivants du Lévitique, des instructions précises sont données aux sacrificateurs. Et après avoir dit en 1 Jean 2, verset 20,
« Vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses »,
l'apôtre donne encore dans la suite de son épître de multiples enseignements. Le verset 27 explique l'expression « Mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses ».
1 Jean 2, verset 27 « Et pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses, et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. »
Chacun de ceux en qui le Saint-Esprit habite, et qui a ainsi l'onction du Saint, est amené dans la présence directe de Dieu. Et là, dans la présence du Saint, il voit aussitôt s'il est en accord avec Dieu ou s'il ne l'est pas. Cela s'applique aussi aux croyants les plus jeunes, avec les connaissances les plus petites, même pour celui qui vient de trouver la paix. L'apôtre écrit à de petits enfants. Ces petits savaient que leurs péchés leur étaient pardonnés par le nom de Jésus. 1 Jean 2, verset 12.
« Je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. »
Acte 4, verset 12.
« Il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. »
Et ils avaient connu le Père. 1 Jean 2, verset 13.
« Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. » Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le méchant. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père.
Cela suffisait, car alors le Saint-Esprit habitait en eux, et ils avaient l'onction de la part du Saint, et connaissaient toutes choses. Certes, ils ne connaissaient pas toute la vérité révélée. Quel Père en Christ pourrait même en connaître toute la plénitude? Si un faux docteur venait à eux, ils ne pouvaient certainement pas lui répondre, peut-être pas même déceler en quoi consistait sa fausse doctrine. Mais dans la présence du Dieu Saint, ils sentaient tout ce qui était contraire à ce Dieu Saint.
« Comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses, et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. »
C'est une pensée merveilleuse pour un jeune croyant. Tant de doctrines diverses ont cours dans la chrétienté. et même des croyants expriment parfois les pensées les plus contradictoires. Alors, comment un nouveau converti, qui a encore si peu de connaissances, pourrait-il rester dans le bon chemin et savoir quelles sont les pensées de Dieu? Nous avons la réponse ici.
Vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses.
Il est ajouté en 1 Jean 2, verset 24,
que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous.
La parole de Dieu nous révèle la vérité, et le Saint-Esprit, qui opère dans nos cœurs, nous instruit par cette parole et nous préserve de fausses doctrines. Alors, comment expliquer que parfois des croyants tombent quand même dans une fausse doctrine et que d'autres ne perçoivent pas une fausse doctrine portant atteinte à la vérité? Les sacrificateurs, dans l'Ancien Testament, ne pouvaient parfois pas s'approcher de Dieu en raison d'une impureté ou d'un défaut corporel, ou des deux, Lévitique chapitre 21, bien qu'appartenant à la maison d'Aaron. Et l'apôtre, après avoir déclaré en 1 Corinthiens 2, verset 15, que
« celui qui est spirituel discerne toutes choses »,
doit dire aux Corinthiens au chapitre 3, verset 1, qu'il n'était pas spirituel, mais charnel.
1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 « Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. »
Ils n'étaient en fait pas restés dans la proximité de Dieu. Quelque chose les empêchait d'y être. C'est un merveilleux privilège que d'être dans la présence de Dieu, un bonheur inexprimable et une paix profonde pour le cœur d'un croyant. Mais on ne peut avoir là aucune volonté propre. Aucun péché ne peut subsister dans ce lieu sans être ôté par le jugement de soi-même. Le monde ne peut pas paraître là, ni quoi que ce soit du monde. On ne peut être dans la présence de Dieu qu'après s'être purifié par le jugement de soi-même et qu'avec un cœur qui lui soit consacré. Nous ne pouvons être en sa présence que si nous désirons agir uniquement selon ses pensées, excluant ainsi toute pensée propre. Chez les Corinthiens se trouvaient des choses charnelles. Il y avait de l'envie et des disputes entre eux. Une sagesse humaine avait trouvé accès en eux. Un mal moral était toléré. Leur discernement s'en était allé, de sorte que quelques-uns d'entre eux étaient tombés dans de fausses doctrines. 1 Corinthiens 15, verset 12.
Or, si Christ est prêché qu'il a été ressuscité d'entre les morts, comment disent quelques-uns parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection de mort?
Qu'en est-il de nous, de chacun de nous individuellement, et de nous en tant qu'assemblée? Quant au sceau du Saint-Esprit, il en est fait mention, outre le passage de 2 Corinthiens 1, verset 21 et 22, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 13 et 4, verset 30.
2 Corinthiens 1, verset 21 et 22. Or celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés et nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs. Éphésiens 1, verset 13. En qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Éphésiens 4, verset 30, et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
En Jean 6, verset 27, il est dit du Seigneur Jésus,
car c'est lui que le Père Dieu a scellé.
Les différents passages qui parlent de sceaux, voir par exemple Esther 8, verset 8, Daniel 6, verset 18, Jérémie chapitre 32, Apocalypse 5, verset 1 à 7, 7, verset 1 à 8, en rendent la signification claire.
Esther 8, verset 8, « Vous donc, écrivez au nom du roi à l'égard des Juifs, ce qui vous paraîtra bon, et scellez-le avec l'anneau du roi, car un écrit qui a été écrit au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi ne peut être révoqué. » Daniel 6, verset 8. Maintenant, ô roi, établis la défense et signe l'écrit, afin qu'il ne soit pas changé selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être abrogée. Apocalypse 5, verset 1 à 7. Et je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans, et sur le revers scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à haute voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et moi, je pleurai fort, parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 animaux et au milieu des anciens un agneau qui se tenait là comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Apocalypse 7, versets 1 à 8. Et après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à haute voix aux 4 anges auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer, disant, « Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au fond les esclaves de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, 144 000 scellés.
Celui qui a été scellé est marqué comme étant la propriété de celui qui l'a scellé. Tous les passages qui parlent du sceau du Saint-Esprit nous en donnent la confirmation. En Éphésiens 1, verset 10 à 12, l'apôtre Paul parle des Juifs croyants qui, en vertu de la promesse, doivent avoir part à la gloire du royaume de paix sur la terre dans l'administration de la plénitude des temps.
Éphésiens 1, verset 10 à 12. Pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, en lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ.
Puis au verset 13, voir la note, il dit, « En qui, Christ, vous aussi, vous avez été fait héritier,
ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage, pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. »
Nous voyons par ce passage que, premièrement, le sceau intervient après que nous avons cru, et, deuxièmement, en vue de l'héritage. Que le sceau intervienne après qu'on a cru confirme à nouveau que l'habitation du Saint-Esprit est quelque chose de tout autre que la nouvelle naissance. Celle-ci fait d'un pécheur un homme nouveau, tandis que le Saint-Esprit scelle le croyant. Mais Éphésiens 1, verset 13 dit davantage.
En qui vous aussi, vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse.
Le sceau est en rapport avec l'évangile de votre salut et avec la foi à celui-ci. En Lévitique 14, verset 17, l'huile est mise sur l'oreille droite, sur le pouce droit et sur le gros orteil du pied droit, sur le sang du sacrifice pour le délit. Si nous prêtons bien attention aux expressions et types de l'Écriture, il me semble que nous pouvons dire que c'est la foi en l'œuvre du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés qui est scellée. Nous étions des pécheurs d'entre les nations qui n'avions aucune part aux promesses. Éphésiens 2, verset 12.
Vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde.
Nous avons cru à l'œuvre parfaite au sang versé, et par ce sang nous avons la paix avec Dieu, et nous avons été approchés de lui. Romains 3, versets 21 à 26.
Mais maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes, la justice, dis-je, de Dieu, par la foi en Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus.
Colossiens 1, verset 20.
Par lui a réconcilié toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux.
Éphésiens 2, versets 13 et 14.
Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture.
Cette fois, Dieu la scelle, il la reconnaît, et met comme signe son sceau sur elle, et par cela elle est en même temps assurée et affermie. Le Saint-Esprit, en tant qu'habitant en nous, est ce sceau, la preuve que nous sommes sa propriété. Éphésiens 4, verset 30 dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit de Dieu pour le jour de la rédemption, et Éphésiens 1, verset 13 et 2 Corinthiens 1, verset 22 parlent aussi de l'héritage à venir.
Éphésiens 4, verset 30, et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 1, verset 13, en qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. 2 Corinthiens 1, verset 22. Dieu, qui aussi nous a scellés et nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs.
Comme nous l'avons déjà dit, nous n'avons pas encore reçu la rédemption de notre corps, et l'héritage est encore à venir. Nous avons été sauvés en espérance. Romains 8, versets 23 et 24.
Mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps, car nous avons été sauvés en espérance. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance, car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il?
Mais ces choses à venir ne sont pas, pour nous, incertaines, bien que nous ne soyons pas juifs, et que nous n'ayons ainsi aucune part aux promesses qui leur ont été données. Dieu nous a déjà maintenant scellés pour prouver que nous lui appartenons et que nous aurons ainsi part à son héritage. Et ce sceau, le Saint-Esprit, est en même temps les arts, la preuve que cette délivrance sera notre part. Car c'est par le Saint-Esprit, certes, que nous recevrons la rédemption de nos corps. Romains 8, verset 11.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous.
Ainsi l'expression « nous avons été sauvés en espérance » a une signification tout autre que celle qu'on entend souvent. Aucune incertitude, mais une assurance sans l'ombre d'un doute. Dieu le Saint-Esprit est déjà maintenant le sceau par lequel Dieu nous reconnaît comme sien, et en même temps les arts que Dieu accomplira ses promesses envers nous.